Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie, de la finance. Une nouvelle semaine haussière, les prix de l'énergie sont à plus 5% en raison des inquiétudes sur l'approvisionnement suite à l'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe. On ne sort pas de ce schéma. Le prix du gaz naturel a augmenté sur les marchés internationaux. On en reparlera un peu plus tard dans Economia. Et puis cela impacte forcément l'économie mondiale avec un ralentissement qui est observé un petit peu partout dans le monde. Le FMI prévoit une baisse de 0,5% de la croissance mondiale, ce qui est reste tout à fait préoccupant, avec toujours beaucoup de difficultés dans le secteur entrepreneurial pour réussir à tenir les salaires, pour faire en sorte que les gens ne partent pas au chômage et toujours être présents sur les facteurs dynamiques et créatifs que sont l'investissement dans les ingénieries, l'investissement dans l'intelligence artificielle qui reste aujourd'hui un vecteur d'investissement, de croissance, donc de recrutement, avec ce paradoxe. On en a beaucoup parlé sur les antennes de Radio Méditerranée International, mais cela se révèle encore cette semaine, la difficulté pour les entreprises de réussir à recruter, embaucher suffisamment de personnes pour faire tourner les entreprises d'intelligence artificielle, à la fois sur le pôle américain, sur le pôle asiatique, mais aussi sur tous les pays connexes, qu'il s'agisse du monde arabe, qu'il s'agisse de l'Europe centrale ou même de l'Europe de l'Est. Il y a toujours cette volonté pour tous les États aujourd'hui de s'inscrire dans cette dynamique qui est celle de l'IA. Nous revenons au Maroc où les travaux se poursuivent inlassablement pour reconstruire la grande région de Al Haouz qui a été touchée par le terrible séisme que l'on sait. Beaucoup de travaux sont engagés, de la répertoriation des édifices qui sont soit détruits, soit fragilisés, l'engagement de travaux, la restructuration des infrastructures, par exemple les routes, par exemple l'eau, par exemple les voiries. Enfin, il y a une somme de travail absolument colossal. On est en prise à un chantier absolument important. On va en parler avec le professeur Hassan Arafi, qui est un économiste qui connaît très bien, qui suit ce dossier, celui du redémarrage économique à une période importante, parce que logiquement, nous sommes à l'aube de l'été. C'est la période où il y a toutes les réservations dans l'industrie touristique. Donc, il est à craindre que cette région de Marrakech passe un été difficile. En tout cas, en termes d'apport de touristes, ça va être très très compliqué. Néanmoins, il y a toujours cette volonté d'arrache-pied, d'être là, d'être à la hauteur de tous les engagements de la nation marocaine pour reconstruire cette région. Hassan Arafi, aujourd'hui, quel est le diagnostic que l'on peut faire 8 mois après cette catastrophe terrible ?
Effectivement, le drame qu'avait vécu le Maroc suite au séisme de Al Haouz a eu des conséquences que tout le monde
redoutait.
Oui, et donc les conséquences, que ce soit sur le plan social ou sur le plan économique, et surtout que le Maroc était pratiquement seul, donc il a essayé de supporter les conséquences par ses propres moyens en s'abstenant de recourir à outrance aux aides internationales pour faire face aux effets de ce séisme-là. La facture, elle est un peu lourde en termes de reconstruction, en termes de reprise de l'activité en elle-même, l'activité dans la région.
Oui.
Et donc, je pense que le Maroc avait déployé les moyens nécessaires afin de faire face à sa situation dans les meilleurs délais.
Ça, sachant juste pour se souvenir qu'on est au-dessus de la dizaine de milliards de dirhams. Enfin, on est sur des prix qui sont
effectivement
qui sont tout à fait colossaux.
Même entraîné le gouvernement à allouer des crédits supplémentaires au niveau du budget afin de faire face à cette situation qui exige d'emblée des moyens financiers importants, en créant même cette agence afin d'accélérer le processus de reconstruction et de réhabilitation des gens qui ont été sinistrés.
Sachant que dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est procéder par étapes. C'est-à-dire qu'à la fois, il a fallu solliciter la solidarité pour que les gens aient de quoi vivre. Après, il a fallu reconstruire les maisons, les routes, aussi parfois même dans l'autre sens, les routes pour atteindre les villages et les reconstruire. Peut-être revenir dans un premier temps sur ce formidable élan de solidarité dont on peut faire le bilan aujourd'hui, sur ces sommes d'argent qui ont été données à des gens du CRU, hein, des gens qui ont été sinistrés, pour au moins tenir au jour le jour et réussir à boucler leur fin de mois.
Oui, effectivement, je pense que le processus a été déjà initié, il est en cours de son exécution d'une manière progressive afin de donner des réparations pour les familles qui ont été sinistrées. Bien entendu, ce genre d'initiatives structurantes ont besoin d'une stratégie, ont besoin d'une vision, ont besoin des programmes opérationnels et bien sûr, on ne peut pas tout faire à la fois. Et donc, déjà, je pense qu'il y a plusieurs familles qui ont commencé à recevoir les aides pour survenir à leur vécu qui a été chamboulé de fond en comble suite à ce sinistre. Le hic est qu'aujourd'hui, parfois il y a des mécontentements de part et d'autre, comme on lit dans la presse, mais il faut être compréhensif qu'on ne peut pas faire tout à la fois.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, il y a un programme. Je pense que les efforts qui ont été déployés par l'État marocain, ce sont des efforts louables. Ils ont pu même de débloquer les premières aides à allouer aux familles. C'est nécessaire dans des délais que je considère personnellement en toute objectivité. Ce sont des délais très, très raisonnables et qui ont été, que l'État a été expéditif en la manière. Bien entendu, le programme de reconstruction selon le compte spécial et ce qui a été ouvert et selon l'agence qui va fonctionner. Et donc, il est étalé jusqu'à 2029.
Oui.
Donc, c'est normal que...
Oui, que ça prenne du temps.
Oui, ça prend du temps pour que la vie trouvera sa reprise comme elle était peut-être mieux qu'avant, Inch'Allah.
Bien sûr, parce qu'en fait, la difficulté, c'est que pour avoir un redémarrage économique, il faut que les personnes ne soient pas en situation de faillite personnelle et il faut 4 murs, un toit, des routes, des canalisations, l'électricité, le téléphone. Et ça aussi, il a fallu travailler sur ce point et c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'avec ce paradoxe, il faut vite que l'économie redémarre, mais pour que ça redémarre, il faut des murs. Alors au niveau des reconstructions, alors, sachant que je ne vous demande pas des chiffres parce que c'est extrêmement difficile de le savoir, mais globalement, sur les reconstructions, sur le programme de reconstruction, de réhabilitation, on en est où plusieurs mois après le drame ?
Ben, je pense que aujourd'hui le plan d'action de 2023-2029 est déjà lancé.
Oui.
L'agence elle est en train de mettre en œuvre les projets qui sont sous-jacents de ce programme. Les premiers déblocages ont été déjà lieu. Et aujourd'hui, et parce qu'il y a plusieurs pistes.
Oui,
d'équipement et d'investissement et des pistes de fonctionnement. Les pistes d'investissement et d'équipement, c'est la reconstruction, en termes d'habitation, en termes de route, en termes d'accès à l'eau et l'électricité, et tous les équipements collectifs nécessaires pour redémarrer la vie dans ces régions. Au niveau de fonctionnement, parce que aujourd'hui, les familles sinistrées sont dépourvues de travail, ils sont dépourvues de leur activité habituelle. Il faut les aider par des moyens financiers, comme des dépenses de transfert du budget de l'État, afin qu'ils puissent subvenir à leur vécu quotidien. C'est normal, ça. Psychiquement, chaque personne peut se considérer comme prioritaire.
Bien sûr, bien sûr.
Sa situation, elle exige une action expéditive. Mais je pense que le rôle aujourd'hui des autorités locales, c'est qu'il faut créer, à mon avis, pour un peu tempérer la situation et pour éviter tout mécontentement susceptible de brouiller cette solidarité qui a marqué ce processus. C'est qu'il faut qu'il y ait toujours des dialogues entre la population et les autorités locales, afin qu'on leur explique qu'il y a des contraintes parfois logistiques, des contraintes financières. Il faut attendre. On ne peut pas faire...
Il faut du temps au temps.
Il faut du temps. Mais je pense que le dialogue, il est très, très important dans ces moments-là.
Sachant après, que la difficulté... Absolument. Et la difficulté additionnelle, c'est que si reconstruction il y a, il faut que celle-ci soit aux normes antisismiques. Sinon, ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que reconstruire, mais il faut que ce soit bien fait. C'est ça.
Oui. L'antisismique aujourd'hui, depuis 10 années, il est intégré dans les documents d'urbanisme.
Okay.
Aujourd'hui, il n'y a aucun plan. Même à abstraction en fait de ce sinistre qui a eu lieu, à ma connaissance, aujourd'hui, personne ne pourrait accéder à l'autorisation de construire s'il ne satisfait pas les normes antisismiques dans les plans architecturaux. Je pense, et dans les plans de masse au niveau du génie civil.
D'accord.
Je pense aujourd'hui que ça a été adopté par le droit d'urbanisme au Maroc depuis quelques années. Je pense que ça va s'appliquer systématiquement sur ces zones.
Mmh.
Effectivement, il y a une nuance à faire, c'est que parfois les constructions dans les zones urbaines ne sont pas suivies de la même rigueur dans les zones rurales, de la même rigueur dans les zones urbaines.
Mais
aujourd'hui, étant donné que ce sont des zones à risque, ben, je pense que il faut respecter les normes.
Absolument.
On n'a pas de solution.
Alors, mais en restant dans le temps, encore une fois, il ne faut pas se précipiter, même si c'est extrêmement pénible à vivre pour les personnes. Mais si c'est reconstruire pour mal reconstruire, ça ne sert absolument à rien. C'est même encore plus dangereux. Donc, on comprend bien le temps qu'il faut pour que tout soit fait correctement. Maintenant, le redémarrage économique. Bon, on sait que les dernières saisons touristiques n'ont pas été formidables, loin de là. Est-ce que vous pensez, avec toute la prudence qui s'impose, hein, il ne s'agit pas du tout de créer des faux espoirs, mais est-ce qu'on pourrait espérer que l'été commence à approcher? Est-ce qu'on pourrait espérer qu'il y ait une saison touristique qui redémarre dans la région?
Je pense que c'est très difficile de dire parce que les gens là-bas, ils travaillaient avec les gîtes, un tourisme domestique. À Agadir, je ne pense pas qu'il y a un problème. Au niveau des stations balnéaires, il y a les stations balnéaires ou même Marrakech. Mais le tourisme, au niveau de ces gens, c'était un tourisme un peu de masse. C'est un tourisme montagnard.
Oui.
Mais je pense que les zones qui ont été sinistrées, je ne pense pas qu'ils seront prêts pour accueillir les touristes comme ils étaient depuis toujours.
Bien sûr.
Je pense que ce serait prétentieux de dire ceci, parce
bien
que
sûr.
Même le tourisme, ce n'est pas ça ce qui est prioritaire aujourd'hui. Ce qui est prioritaire, c'est le côté social. Il faut reloger les gens, il faut qu'ils trouvent leur dignité, il faut qu'ils trouvent leur train quotidien commun. Parce que les familles, ils ont eu des morts, il y a des personnes qui sont...
Oui, c'est terrible, c'est terrible ce qui s'est passé. Oui, bien sûr.
C'est terrible. Et je pense aujourd'hui, le challenge, c'est d'abord, il faut que la vie soit reprise d'une manière normale, en termes social, en termes d'activité, en termes d'employabilité. Et après, je pense ça serait, Inch'Allah, beaucoup plus beau qu'auparavant.
Alors maintenant, il y a la question de l'intégration régionale qui est tout à fait importante, parce qu'on a ce pôle d'attractivité hein, pour le tourisme, mais aussi pour l'économie régionale qui est Marrakech. Donc on a ensuite les régions connexes qui sont arrimées à Marrakech. Est-ce que cette connexion qui existait avant le séisme, est-ce qu'elle a été préservée? C'est-à-dire que les infrastructures, les entités administratives, ça continue de fonctionner entre les provinces et finalement, heureusement, le drame sur ce point-là n'a pas été efficace. Ou est-ce qu'il faut encore reconstruire des liens, des passerelles pour que, vous voyez, pour retrouver finalement l'harmonie dans ces régions? Parce que c'est ça aussi qui est important, avoir l'harmonie des décisions, des fonds, des personnes, des hommes, des compétences, etc.
Je trouve votre question, elle est profonde et très, très, très pertinente. Dans la mesure, aujourd'hui, nous avons 12 régions, mais il ne faut pas qu'il y ait des connexions entre ces régions-là. Il y a un principe qui a été introduit par la nouvelle loi organique relative aux régions, c'est l'interrégionalité.
Alors, de quoi s'agit-il?
De quoi s'agit-il? Auparavant, on parlait uniquement de l'intercommunalité, c'est-à-dire la coopération au sein de la même région entre les communes, les provinces et les préfectures. Le législateur est parti plus loin. Et ça, suite à la réforme constitutionnelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des projets structurants ne peuvent pas être mis en œuvre d'une manière intelligente et performante sans qu'il y ait une coopération interrégionale. On ne peut pas espérer que le développement du terrorisme, par exemple, soit réussi sans qu'il y ait une mise en cohérence entre les projets de développement de la région de Marrakech, la région de Sousmassa.
Absolument.
Et peut-être la région de Gloumim. Ils devront se compléter. Et donc, aujourd'hui, si nous avons un tourisme qui s'appuie sur le sur les stations balnéaires à Agadir, Marrakech, il a un autre tourisme qui est différent.
Bien sûr.
Il en est de même au niveau de la de Tizni, Sidi Ifni, etc. Et donc, aujourd'hui, ça, c'est un chantier qui, aujourd'hui, n'est pas encore fertile.
D'accord. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut quoi? Il faut du dialogue, il faut se rencontrer, il faut se parler.
Il faut aujourd'hui, d'abord, l'interrégionalité ne peut pas se réaliser sans une mise en cohérence des politiques publiques nationales.
Oui.
Donc, aujourd'hui, nous avons un département qui doit s'en occuper et qui doit développer un visionning qui permet de appréhender les projets structurants dans une vision interrégionale. Je vous donne un petit exemple. Si vous voulez construire un aéroport, par
oui,
exemple.
Bien sûr.
Un aéroport, par exemple, l'aéroport que le Maroc entend de faire à Sidi Slimane ou le projet du terrain à l'horizon de 2030 de Ben Slimane. Est-ce qu'on peut imaginer que ce genre de projet structurant peut réussir sans collaboration entre la région de Rabat Salih Kétra et la région de Casablanca et la région de Tsansif?
Oui, ce sera impensable.
Donc il faut éviter ce cloisonnement entre les différentes régions. Et moi, je pense, je suis parmi les défenseurs fervents, qu'aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui n'atteignent pas la performance nécessaire suite à la non-collaboration entre les différentes régions. On ne peut pas espérer que le port de Marchika, par exemple à Nador, réussira sans qu'on intègre la région de Fès-Meknès, parce qu'il y a l'autoroute qui ramène au port. Et donc, aujourd'hui, l'interrégionalité est un facteur contextuel clé pour la réussite des projets structurants du Maroc. Ceci est particulièrement vrai si l'on sait qu'aujourd'hui, les régions, je parle des régions, pas uniquement des communes, les régions, ils sont pourvues de compétences propres extrêmement étendues et qu'il faut, d'abord, il faut les préciser, il faut les mettre en œuvre et il faut les optimiser.
Absolument. Alors justement, ça c'est un point qui est très intéressant parce que c'est aussi un élément qui permet non pas d'isoler, mais de créer la valeur ajoutée dans les régions et ensuite d'harmoniser ces régions. Ce sont les notions de terroir. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à l'occasion de ce drame, enfin c'est pas du tout comment dire, injurieux envers les gens qui habitaient cette région-là, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie identité, une vraie qualité, qu'il y avait vraiment un cachet particulier, qu'il y avait un terroir dans cette région de House, et que celui-ci devait être entendu, respecté, reconstruit, entendre toute la souffrance aujourd'hui de ces gens. Mais c'est vrai que ce terroir, ces terroirs au Maroc sont absolument essentiels pour les gens, puis aussi pour le produit Maroc au sens générique du terme. Ça aussi, c'est un point qui est important.
Oui, et pour votre information, on était en train de parler de l'interrégionalité, etc. Vous
absolument.
Savez que parmi les compétences propres de la région, et ça c'est nouveau, hein, c'est
oui.
la promotion des produits du terroir.
Ben ça, c'est génial, oui, c'est formidable.
Et ça, c'est parmi les... Quand je dis les compétences propres, signifie que politiquement, c'est la région qui en est responsable. Parce qu'il s'inscrit dans le développement économique de la région, pas uniquement du développement social. Aujourd'hui, la région est détentrice de compétences extrêmement vastes. Il faut les mettre en œuvre. Il faut les opérationnaliser. Aujourd'hui, la région elle a la possibilité, elle a la compétence propre de créer des zones d'activité artisanale, en sus de ses compétences de domiciliation, organisation des zones d'activité économique. Elle a la compétence de soutien des entreprises. Elle a beaucoup de compétences. Et en plus, la promotion pour la création des marchés de gros régionaux, ça c'est nouveau.
Aussi, c'est effectivement, donc, c'est intéressant.
Et ça c'est nouveau. Et aussi, aujourd'hui, c'est parmi les compétences de la région, c'est la promotion des produits de terroir, c'est-à-dire afin de donner une identité. Parce que les produits de terroir, ce n'est pas uniquement leurs effets économiques qui est important, mais leur
identité culturelle,
leur
absolument.
Culturelle. Ce sont des compétences, et on lit les 46 compétences propre et partagé dont dispose la région, on voit qu'il y a une certaine complémentarité qu'il faut comprendre. C'est comme une image de puzzle.
Est-ce que vous avez
on
le...
Peut pas...
Oui, je vous écoute.
Oui. On ne peut pas dissocier le développement culturel de développement rural, le développement rural de développement économique. Mmh. Et donc, il faut qu'on mette ça dans une synergie, que nos élus doivent comprendre ça et appréhender ça dans toute sa complexité, afin de donner la région et replacer la région dans le positionnement que lui a conféré la Constitution. Un grand effort est attendu dans ce sens. Je pense que, et c'est là je fais allusion à la lettre de Sa Majesté le Roi qu'il avait adressée aux participants aux assises d'Agadir sur la régionalisation.
Oui, sur ce point-là, absolument. Donc, ouais.
Et je pense que les termes ont été suffisamment clairs, qu'il faut préciser ses compétences, qu'il faut les mettre en œuvre, qu'il faut créer de la synergie entre la région et les différentes collectivités territoriales d'une part, et entre la région et l'État.
Et on parle aussi de... Oui, juste d'un mot pour terminer, parce que je ne voudrais pas qu'on dépasse le temps qui nous est imparti, mais juste d'un point pour terminer. Quand on fait la synthèse de tous ces échanges instructifs que vous nous avez apportés, est-ce que vous avez le sentiment qu'on va réussir à tenir les délais de reconstruction, de redémarrage économique, de recréation de tissus sociaux cohérents, apaisés, interterritorialisés? C'est pas facile à dire, interterritorialisés. On va tenir les délais ou pas?
Ben, je pense que c'est très difficile. Bon, je m'inscris
vous
à dans
êtes prudent,
la propre...
Vous êtes prudent.
Mais c'est pas question parce que je peux pas statuer un jugement.
Oui, bien sûr.
Situation sans qu'on aille les éléments parce que les gens qui sont sur le terrain, qui affrontent les contraintes. Je pense aujourd'hui, les démarches de l'État ont été bien calculées. En créant d'abord une structure qui va s'occuper de la restructuration et de la réhabilitation des zones sinistrées. Maintenant, ce qui conditionne le respect des engagements,
oui.
Ce qui conditionne le respect, c'est d'abord que tous les partenaires, ils doivent respecter leurs engagements financiers, parce que
si on
retarde les projets. C'est que parfois, il y a l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, etc., peut-être d'autres bailleurs de fonds, et parfois, on s'engage, mais sans respecter nos engagements. Et bien sûr, on ne peut pas, dans ce cas-là, reprocher à l'agent qu'il n'a pas fait son travail, alors qu'il n'a pas les moyens. Deuxièmement, comme disait le proverbe américain, « If you have a vision, you have a direction ». Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de direction. Je pense qu'il faut mettre en place un cadrage logique bien clair, qui définit les responsabilités entre les différents acteurs qui sont, certes, l'agence a fait le pilotage, etc., mais il y a d'autres acteurs auxquels on devrait importer sur responsabilité. Ben, ce qui retarde, c'est que parfois les responsabilités ne sont pas claires, les engagements financiers ne sont pas respectés, et donc le résultat, c'est que parfois on est au-delà des délais. Aujourd'hui, l'État n'a pas le droit à l'erreur. Parce que ce n'est pas un projet qui peut attendre. Ce sont des personnes qui sont sans abri. Ce sont des personnes qui ont perdu leur famille. Ce sont des personnes qui se trouvaient sans emploi. Et donc, je pense que la gestion de temps ici est extrêmement importante. À mon avis, les responsables qui sont investis dans ce processus sont bien conscients de ces conditions. Je n'ai pas à le faire apprendre leur travail. Ils savaient très bien que les attentes sont grandioses, les enjeux sont grands, et puis ils ont le pain sur la planche.
Merci Hassan Narassi, merci beaucoup pour l'ensemble de ces explications. On va rester au Maroc, c'est officiel, hein, et c'est surtout appliqué hein, depuis cette semaine. Le prix de la bouteille de gaz qui est passé au-dessus des 50 dirhams, la petite, celle de 3 kilos, est passée de 10 à 12 5 dirhams. Bon, c'est une augmentation qui avait été annoncée l'année dernière en octobre par le chef du gouvernement. Il a fallu la mettre en place. Maintenant, c'est vrai que le contexte international est tel que l'inflation est aujourd'hui l'un des paramètres. On en parle toujours dans l'économie. Ce n'est pas lié au Maroc, au Maghreb, à l'espace euro-méditerranéen. C'est un phénomène qui est mondial. Donc le Maroc s'y était préparé. Je vous propose d'entendre sur ce point l'économiste Mehdi Fakir.
Écoutez, il s'agit d'une décision qui était attendue. Le chef du gouvernement l'avait évoqué par le passé. Il a même parlé d'un échéancier de décompensation de la vente de gaz à titre progressif, pas une décompensation globale, c'est une décompensation partielle dans l'attente de la généralisation d'un système de ciblage pour l'aide publique. C'est-à-dire ce qui est attendu, c'est une mesure en deux temps. Tout d'abord, une décompensation partielle pour tout le monde, et puis une décompensation totale lorsque le système de ciblage et de l'aide directe sera complètement mis en place. Donc c'est une mise en œuvre d'une décision politique déjà annoncée par le chef de gouvernement. Du moment qu'il s'agit d'une décompensation partielle, ce qui va concerner l'ensemble des bénéficiaires, bien sûr, de cette compensation de la bonbonne de gaz. Effectivement, la toute petite qui va passer de 10 à 12,5 et la grande qui va passer de 40 à 50, c'est sûr qu'elle aura un impact sur le pouvoir d'achat. L'usage sur du gaz pour le cuisson, pour les ménages, donc c'est vraiment une matière de première nécessité. Donc il va y avoir un impact direct sur les couches défavorisées et vulnérables, de façon moindre éventuellement pour la classe moyenne, mais il y aura certainement, je dirais, parce que vous savez, là, on est en train de parler de l'une des trois matières qui reste compensatoire.
Merci Mehdi Fakir, merci d'avoir participé à Economia. C'est la fin de ce rendez-vous hebdomadaire d'infos sur l'écho. On se retrouve très très vite la semaine prochaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.